cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
The rain continued the following day, and the boy sat in his room playing his records. He had been digging for some time, looking for something, though he wasn't quite sure for what. When his mother came to his room, she found him on the floor. He sat expressionless, as if he were bored, as children sometimes are. She knelt amongst the scattered piles. She asked him if he understood the uniqueness of his life. She explained that moments happen only once, like an hourglass turned over, not able to be turned again. She said, we are given a life to experience, to feel. We must be present in these moments.
Bonjour Wax Taylor.
Bonjour.
Wax Taylor qui vient nous voir avec un nouvel album sous le bras qui s'intitule Dusty Rainbow from the Dark. Un nouvel album un peu concept avec une sorte de thématique sur l'enfance. D'ailleurs, la voix, le narrateur qu'on entend au début nous parle d'un garçon un peu qui est dans sa chambre, non pas entouré de ses doudous, mais entouré, j'ai l'impression, de ses montagnes de vinyle. C'est ça l'idée ?
C'est ça l'idée. Le point de départ, c'est surtout, comme tu l'évoquais, j'avais vraiment en amont l'envie d'un album concept. C'est quelque chose qui me travaillait depuis super longtemps. J'ai toujours été fasciné par les disques un petit peu construits comme ça, avec une histoire, avec un concept, avec pas mal de choses autour.
Certains albums de référence en particulier par rapport à cette idée de concept
album. Oui, beaucoup d'albums. Alors c'est pas forcément d'ailleurs des albums. Bon, c'est des poncifs, mais ça va de Melody Nelson à Fear of a Black Planet de Public Enemy. C'est des choses très dans des esthétiques très différentes. Mais j'aime bien cette unité là, et je crois qu'en fait c'est aussi une façon, depuis le début pour moi déjà, de répondre d'une certaine façon à cette approche, tu sais, de l'album qui consistera à dire en gros, coucou, j'ai 10 titres, donc là j'ai un album. Moi, pour moi, un album, c'est pas une succession de titres, c'est une homogénéité, c'est un moment, c'est un instantané dans ce que t'as envie de faire dans ta carrière, dans ce qu'on appelle ça comme on veut, tu vois, mais le moment où tu dis voilà, ça, c'est, il y a une unité entre tous ces titres, il y a quelque chose. Donc ça, je pense que déjà sur mes albums précédents, c'est quelque chose que je travaillais, auquel je réfléchissais, et là j'avais envie d'aller plus loin. Donc cette idée est venue, quoi, voilà.
Est-ce que ça veut dire que la grosse connotation, on pourrait dire cinématographique, visuelle, qui est très proche de ton art, de ta musique, soit par des emprunts à des samples de musique de film ou même des voix parfois extraites, c'est déjà quelque chose de toute façon qui faisait que tu conçois finalement un petit peu cet album presque comme un film ?
C'est un rapport à la scénarisation. Voilà. Après, le média cinéma en soi, il y a un rapprochement constant, en tout cas, qui est fait. Beaucoup de gens le font, et je le comprends aisément. Moi, je crois que c'est plus une question de vocabulaire, au final, quoi. C'est-à-dire que il y a une approche, voilà, de la scénarisation. J'ai utilisé très, très volontiers et de façon complètement assumée le terme de metteur en son pour définir ma façon de travailler. J'ai le sentiment que c'est ça qui me définit le mieux. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses en commun. Et au final, c'est surtout, moi, ce que je retiens, la scénarisation, c'est-à-dire la façon de penser qu'un album, ça se scénarise aussi, c'est-à-dire que ça se réfléchit de A à Z avec tous les paramètres, en estimant qu'un chanteur, c'est aussi un acteur et qu'il a un rôle dans une histoire.
Pour cet album, donc, effectivement, concept album, donc album en tant que tel, est-ce que ça veut dire que parfois tu conçois plus ta musique en chanson, en single, plutôt qu'en album, ou ça dépend franchement en fonction des projets ? En général,
objectivement, je le pense beaucoup, beaucoup plus en album qu'en single, quoi. Après, j'ai envie de dire que c'est des heureux accidents, les singles. Tu vois, d'un coup tu dis oups, il y en a un qui va peut-être pas mal passer en radio, c'est cool. C'est le deuxième niveau de lecture. Tu finis ton global et puis tu te dis tiens, voilà. Après, objectivement, il y a des titres qui sont peut-être plus faciles, plus accessibles, plus catchy, enfin tout ce qu'on peut. Mais ça, c'est vraiment deuxième plan pour moi, quoi, vraiment.
Comment tu as travaillé concrètement sur cet album de par justement sa nature concept album par rapport à tes albums précédents ?
Alors, la grosse différence, c'est justement avec cette approche, c'est que sur les albums précédents, il y a une homogénéité qui passe complètement à travers le son. C'est ça qui fait le lien. Là, il y avait une volonté, une vraie velléité d'avoir une histoire. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup questionné en amont. Je me suis dit, dans un premier temps, que j'allais faire une histoire.
T'as fait un scénario, finalement, presque.
Ouais, bien sûr. Mais je me suis dit, voilà, je vais faire une histoire. Et puis, j'ai commencé à affiner. Je suis parti dans l'idée que, globalement, ce qui était important pour moi, c'était de... C'était de trouver un axe, et j'ai pensé à la petite allégorie, en fait, du pouvoir des vocations de la musique. C'est quelque chose qui est constant, qui me, qui, qui est une réalité pour moi, mais qui est une réalité pour plein de gens, parce que quand je, tu vois, tous les retours que je peux avoir des gens en direct, c'est souvent ça, ils me disent voilà, la musique renvoie des images. Donc je suis parti avec cette idée, et ça m'a renvoyé surtout un truc, c'était que si vraiment je voulais faire la démonstration de cette idée que de pouvoir d'évocation de la musique, fallait non pas que je commence avec l'histoire justement, mais avec la musique. C'est-à-dire se dire, bon bah voilà, il doit y avoir ce premier niveau de lecture qui va être la musique à proprement parler. Donc j'ai commencé simplement en 2011, toute l'année, tu vois, à faire la compo de l'album. Et puis quand je suis arrivé à ce que moi j'appelle, on va dire, le draft, tu vois, enfin l'album, la maquette de l'album instrumental, les choses, c'était marrant ce que je m'étais dit, voilà, il faudra que je trouve une histoire derrière ça. Et puis c'est venu naturellement en fait. Et du coup, c'était un peu une démonstration que je me suis fait à moi-même par rapport à ça, parce que d'un coup c'est venu, voilà, il y a eu des petites bribes. Donc il y a eu un deuxième temps derrière où il y a eu l'écriture de l'histoire. Là je suis parti à New York travailler avec Sarah Jane, avec qui j'ai déjà collaboré, qui m'a donné plus qu'un gros coup de main sur l'écriture.
Je chante même sur le,
absolument,
sur le disque.
Ouais. Et donc on a travaillé ensemble là-dessus. Et puis la troisième phase, c'est moi ce que j'appelle plus la réalisation, quoi. C'est-à-dire le moment où voilà, t'as tous tes éléments, maintenant il faut mettre en place, on y va. Et ça a été le gros questionnement du narrateur, trouver le bon narrateur, savoir comment le mettre en place, et puis après tous les invités et tous les featuring, quoi.
Je me souviens que sur avoir entendu une interview de toi au moment de In the Mood for Life, où tu avais dit que l'album In the Mood for Life avait été très 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 dur à faire, etc. Est-ce que là c'est la même chose finalement, ou est-ce que c'était, même si évidemment il y a quand même du travail derrière, c'est évident, est-ce que finalement ça s'est passé de manière un petit peu plus paisible?
Ça a été en deux temps en fait, toute la phase composition a été beaucoup plus paisible en effet. C'est-à-dire que d'abord je m'étais pas imposé de deadline ni quoi que ce soit, ma méthode de travail, je suis revenu à des choses en fait très 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 je suis revenu un petit peu à la base en fait, c'est-à-dire ça serait long à expliquer en détail, mais le cheminement, ça a été vraiment de se dire j'avais envie d'amener, de voir où je pouvais, jusqu'où je pouvais repousser les limites de mon côté en tout cas, avec les outils rudimentaires, c'est-à-dire avec un sampler, avec deux platines, avec des vinyles, et en se disant non pas forcément dans l'appréhension générique de 90% des gens qui se dire le sampling c'est égal boucle, égal reprise de mélodie, mais de se dire c'est un instrument, c'est un outil qui me permet de fabriquer mes instruments, qui me permet de faire de la pré-production et après voilà de composer naturellement. Donc cette phase là elle a été plutôt paisible, voilà. La phase écriture c'était plutôt constructif, et la phase réalisation ça a été très 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 dur aussi, mais simplement parce que je crois que c'est naturel, et objectivement si on se reparle dans 2-3 ans sur un prochain album, je dirais sûrement la même chose, parce que j'arrive à un moment donné où j'ai des exigences qui sont de plus en plus précises, je sais de plus en plus ce que je veux, et je crois que je suis de plus en plus chiant, quoi, objectivement. Donc du coup c'est compliqué.
Donc on retrouvera sur cet album toujours des textures qu'on pouvait retrouver dans tes enregistrements passés, de abstract hip-hop, de hip-hop plus classique, de soul, etc., de trip-hop, mais on sent toujours qu'effectivement ta culture première c'est le hip-hop, avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire pas même que musicalement, mais sur l'approche, la façon de travailler, le sampling, etc. Ça reste vraiment un peu le point de départ de qui tu es musicalement.
Moi je pense que c'est l'épine dorsale, souvent c'est une grande...
Il y a même un titre, exemple, je crois que c'est The Sound, qui est carrément effectivement un titre très hip-hop, avec une sonorité très années 90, début des années 90.
Ouais, en même temps avec des accents, tu vois, bop en jazz. Ouais. Après, encore une fois, c'est toujours une question d'appréhension et de définition. Moi, je suis souvent interpellé sur cette question-là, tu vois, du hip-hop. Quand je le revendique d'une certaine façon, souvent on me dit, mais quand même, ça va au-delà, tu vois, souvent. Et c'est un truc que j'ai du mal à. Et que j'accepte pas vraiment, en fait. C'est-à-dire, quand on me dit ça va au-delà, ça sous-entend qu'en fait, le rap, c'est quelque chose d'assez basique et que donc c'est plus recherché. Je pense que c'est une erreur de lecture. Tout dépend, tu vois, dans tous les genres musicaux, on connaît, il y a de l'escroquerie un peu partout. Donc, oui, dans le rap, peut-être. Parce que les outils et la façon de faire fait que c'est peut-être plus facile de faire de l'escroquerie, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des choses, tu vois, très très tu vois, des gens comme il y a des tonnes de producteurs de Pete Rock à premier, enfin, et consorts, qui ont fait des choses très très basiques mais qui sont juste absolument classiques, quoi, pour moi.
Est-ce que c'est pas aussi parce que ta culture hip-hop finalement et cette culture de la première moitié des années 90 qui était où le hip-hop avait été très lettré, c'est-à-dire qu'on prenait énormément de sampling, qui faisait énormément de références au jazz, l'histoire du jazz, de la soul, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant dans les productions hip-hop actuelles, et donc peut-être que les gens perçoivent effectivement le hip-hop, ceux qui t'interrogent sur ce genre de sujet font plus référence au hip-hop actuel qu'au hip-hop dit old school ou de l'âge d'or, du fameux Golden Age.
Bah ouais, pour moi, tu fais question-réponse, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, et c'est pas... encore une fois, tu vois, mon point de vue, il est pas du tout passéiste, hein, parce que c'est presque un risque aujourd'hui, je trouve, des fois, de se retourner trop sur le début des années 90. Simplement, ce qu'il faut être capable aussi de faire en termes d'état des lieux, c'est de dire clairement le pourquoi du comment. C'est-à-dire que cette culture, quand on parle même des fois de old school, ce qui est quand même complètement délirant, mais bon, ça c'est encore une autre... Mais c'est que, simplement, là, ça sera un très très long débat, mais c'est un débat esthétique qui tourne autour de la culture du sampling, plus que sur le rap en soi, c'est la culture du sampling, et le pourquoi du comment on en est arrivé là aujourd'hui, c'est-à-dire simplement une culture un petit peu marginalisée, ghettoifiée, simplement parce que l'industrie a décidé d'eux. On va pas rentrer dans les arcanes, mais on sait très bien, c'est des histoires de droit, des histoires qui font que... Mais, encore une fois, moi j'ai le sentiment, tu vois, aujourd'hui, qu'il y a une autre façon de l'appréhender. La preuve en est, c'est que 90% de ma production, aujourd'hui, c'est des choses que je compose. Ça m'empêche pas d'être, à mon sens, complètement ancré dans cette culture, tu vois. C'est juste que je le travaille différemment aujourd'hui, aussi parce qu'on est, comme je te disais, 20 ans plus tard, et qu'on a des outils qui nous permettent d'aller plus loin, et que reproduire à l'identique exactement ce qu'on a fait au tout début des années 90, ça serait pas suffisant.
That evening, as the boy was climbing into bed, a sadness came over him. His mother studied his face as she pulled the blankets up under his chin. She went to his record player, pressed the button, and the light came on. The turntable began to spin, and she lowered the needle.
Once again, you started.
De poser des ambiances, poser, trouver des sons, que ce soit des sons que tu fais ou des sons que tu vas sampler, utiliser de la grande bibliothèque de l'histoire de la musique d'avant toi, à justement à faire une composition, quelque chose pour ne pas justement rester sur du papier peint musical et arriver à trouver une écriture. Et comment justement dans ton parcours, t'as quand même maintenant quand même un certain nombre d'années de travail, t'as réussi justement à passer de l'un à l'autre et de ne pas juste poser une ambiance et ce fameux papier peint musical, à vraiment à trouver une écriture, un style.
Je crois que c'est exactement ça. Il y a deux choses, il y a l'écriture, il y a l'esthétique. Souvent, tu vois, on fait des raccourcis, c'est-à-dire qu'on pose des étiquettes sur la musique, on l'a toujours fait à toutes les époques, c'est normal. Mais après, il y a quelque chose qui est ancré dans la musique contemporaine aujourd'hui, qui, moi, s'apparente pour moi à une culture pop dans le sens populaire, tu vois, c'est-à-dire quelque chose des ritournelles, des morceaux de 3 minutes, 3 minutes 30 avec des gimmicks. Moi, c'est quelque chose dans lequel je me sens assez ancré. Et aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment simplement que, après avoir pas mal cheminé, tu vois, j'ai le sentiment d'avoir assumé pas mal de choses, d'avoir fait la synthèse de ce qui me définissait le mieux. Et du coup, d'avoir fait la différence entre ce qu'est justement ce que tu évoques, le côté purement esthétique d'un côté et l'écriture de l'autre. C'est-à-dire que souvent, moi j'ai le sentiment, et c'est pas pour tirer à boulet, mais il y a pas mal de producteurs, j'entends, enfin, quand on dit ça sonne, tu vois, c'est très très tendance, c'est ceci, c'est cela. Mais après, si ça repose pas sur une écriture super solide, ça reste très très éphémère, quoi, ça passe pas le temps. Moi j'ai le sentiment que c'est un peu la synthèse de tout ça qu'il faut trouver. C'est à un moment donné définir, comme tu disais, ton esthétique, trouver un petit peu les ressorts qui font que toi tu t'y retrouves, que tu as cette petite vocation, que tu dis tiens voilà, là je me sens un petit peu dans mon univers, et puis après tu poses une écriture tout simplement, quoi. Donc ça c'est quelque chose à pas négliger, qui à mon sens fait vraiment vraiment partie de ce qui peut définir un son à un moment donné. C'est le moment où t'as une petite fenêtre qui s'ouvre parce que t'as trouvé un petit gimmick, quelque chose qui va faire la différence par rapport à une ribambelle de démos, quoi, tout simplement.
À quel moment tu penses l'avoir trouvé, toi, justement, ton univers dans ton parcours? Est-ce qu'il y a un titre, quelque chose, un événement qui s'est passé artistiquement, j'entends, un single, un album, où vraiment tu t'es dit tiens, là vraiment j'ai passé quelque chose, il y aura vraiment un avant, un après?
C'est pas un titre en particulier, mais c'est une période, en fait, si tu veux. Il y a eu, moi j'ai fait longtemps du rap, donc avec un groupe. J'ai toujours morcelé, quoi. J'avais ce côté, j'avais ce projet rap, j'avais un projet trip-hop, j'avais un projet breakbeat, j'avais tel et tel truc, et je sentais mais un ultra ultra ras-le-bol, tu vois, du côté, tout ça ne me satisfait jamais pleinement, tout simplement, quoi, tu vois. Il y avait ce côté, et puis je crois que c'est un peu le retour public qui m'a permis de me sentir bien, en fait, parce que je me suis dit je vais le faire pour moi d'abord, tu vois. Le premier album je l'ai fait pour moi, j'ai fait le EP en Lost the Way en 2004, et j'ai eu des retours, et dès que l'album est sorti, en fait, il s'est passé un truc, tu vois, vraiment. Et objectivement, par rapport au retour que j'avais eu, alors là sans vouloir tirer sur des gens, mais de professionnels, qui me disaient en gros c'est casse-gueule, ça va pas convaincre les gens de l'électro, ça va pas convaincre, enfin, tu connais les discours, les poncifs, et du coup ça n'a fait confirmer que ce que moi je pensais c'était une réalité aussi. Et simplement aussi, moi j'ai évolué, et le public, tout le monde a évolué, quoi, tu sais. Je pense simplement quand j'écoute et la prod des jeunes compos aujourd'hui qui ont 20 ans, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus riche d'une certaine façon dans l'approche que ce que nous on pouvait faire à 20 ans, simplement parce qu'on était dans des dialectiques différentes, on était dans des rapports beaucoup plus de clash entre des genres musicaux, parce que c'était alors qu'aujourd'hui je crois qu'il y a une espèce d'ouverture sur pas mal de choses qui fait que tout est un peu digéré, quoi. Donc c'est un peu différent.
La culture de l'iPod shuffle, en position shuffle,
ouais, avec les plus et des moins, mais objectivement faut pas non plus, ce que j'entends, tu vois, le truc un peu récurrent aujourd'hui c'est de dire voilà, que voilà, du coup c'est du prémâché, ce qui est en partie un peu vrai. C'est-à-dire qu'objectivement c'est vrai que quand on n'avait pas autant d'accès, je pense qu'on avait une connaissance super presque encyclopédique d'un disque, parce que c'était une bible et on le décortiquait, etc. Donc aujourd'hui évidemment c'est pas ce rapport des choses, c'est différent, mais ça apporte aussi quelque chose dans la musique.
Quand on utilise énormément de choses du passé, des sons, des univers, etc., pour créer sa propre musique, finalement on a une bibliothèque un peu sans fin. Est-ce qu'on peut se noyer? Est-ce qu'il y a des dangers parfois, justement, et comment on fait pour pas se noyer?
Bah, je pense qu'il faut...
Parce que même toi, il y a eu des moments dans ton parcours où tu t'es posé en disant, bon, là, il faut vraiment que je cogite vraiment.
Quasiment tout le temps, tu vois, objectivement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... c'est peut-être je sais pas si c'est un privilège, mais c'est le côté, tu sais, il y a aussi ce truc récurrent dans la musique de, tu fais un disque, et puis on attend de toi que tu surprennes, quoi. Ça, c'est une espèce de... Alors après, il y a des gens qui sont, y a peut-être des profils d'artistes différents, c'est-à-dire qu'il y a des gens, tu vois, qui ont ce côté caméléon, qui sont capables de passer du coq à l'âne et qui le font super bien. Moi, je suis assez admiratif quand c'est bien fait, je trouve ça. Moi, j'ai objectivement, je pense pas avoir ni ce talent ni cette envie, tu vois, d'un coup de dire tiens, j'ai fait, cette année, je vous fais un album de dubstep parce que puis encore une fois, j'aurais l'air d'un con.
Enfin, dire tu construis pas tes albums l'un contre le précédent, quoi.
Non, carrément pas. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que sans vouloir filer la métaphore, tu vois, il y a ce rapport au sillon. Moi, je creuse le sillon. Je continue de creuser mon sillon. J'ai trouvé ce que je voulais faire et j'essaie à chaque fois de voir ce que je peux, comment je peux trouver des variantes, tu vois, à des choses, en me disant simplement, voilà, l'esthétique globalement, je vois à peu près dans quoi je veux l'emmener. Après, sur un album, par exemple, tu vois, mon deuxième album, je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de travailler sur de la mélodie vocale. Je me suis mis ça un petit peu en tête. Le troisième, c'est sur In the Mood, c'était à l'évidence les arrangements de cordes, c'était une obsession, tu vois, je me suis dit il faut vraiment que j'aille au bout du truc et voir ce que je peux en faire. Sur cet album, j'avais envie de me dire quelque part, j'avais envie de revenir à quelque chose peut-être plus proche de Tales du premier album, mais avec, en me disant 10 ans après, qu'est-ce que t'es capable d'injecter après avoir travaillé avec un orchestre symphonique, après avoir fait ça, après avoir été confronté à plein d'expériences, qu'est-ce que ça peut donner, tu vois, c'était vraiment ça.
Soundtrack, pulling off at the set of bounce back. Packing algorithm through a prism and a vision. And the visions give away to a synergy of rhythm.
No more living in fear, it's now clear. Eyes wide open, he knows that it's near. A feeling overthrows any previous notion he had of his sad and his gleeful emotion.
The potion made him go captivated and created from the energy building. His mind made it and related to the tools of the student of the school of a lady. Finding himself the longer way to come on.
Black turntable on the floor.
Ears are perceiving the score.
Eyes and they ride the horizon.
Walls can't confine them.
Black turntable on the floor.
Ears are perceiving the score.
Eyes and they ride the horizon.
Walls can't confine them.
Instrument.
It was made by what they call the lost wax process.
Now he's got time on the side, sand in the hourglass. One for the win, two for the past that he heard. Three outside with the foul scowl, effortlessly older back then.
Much younger now,
he's got the hunger now. Wisdom of youth,
busts out the slumbering vision and truth. Like a new paradigm, sure to paralyze his mind. Can he handle dismantling space and time? Afraid there might be evil to come. Snap out of it, 4, 3, 2, 1.
Having fun, under a spell, feeling so numb. And exploring on a run into the sunlight gone. Into the darkness, awareness making him paralyzed. To the music he was making right in front of his eyes. For a surprise on the rise, so flammable he could burn. But then he slows down and concerned to learn.
As he turns around, the world becomes his private playground.
There's no chance he can manage to keep his heartbeat to stay down.
Now the sounds in the temple of his mental breeze daylight.
Ain't sharp like the pencil of the playwright.
And he blows up the spot like dynamite. Make it tight, show the party people what you like.
We're one,
black turntable on the floor.
Ears are perceiving the score.
Eyes and they ride the horizon.
Walls can't confine them.
Black turntable on the floor.
Ears are perceiving the score.
Eyes and they ride the horizon.
Walls can't confine them.
I'm only trying to show you what your record keep on missing.
Brother, man, can do it. Keep the hands clap, the hands clap. Stop in the back of your brain until you see me again.
Mixing, mix, specialized in music.
Comment s'est fait le choix des invités, des featuring dessus, alors il y a Aloe Black, on a parlé de Sarah Jane, il y a Jennifer Charles, Elise Anfield, mm-hmm. etc. Il y en a d'autres. Comment on fait son petit marché là-dedans, justement, pour pas que ça devienne une sorte de compile ouais. ou de.
Bah, c'est pour moi, c'est un gros risque et une obsession constante parce que mm-hmm. tu vois, je le dis souvent, mais c'est vrai, je suis le premier suspicieux d'albums à featuring, quoi. Quand mm-hmm. je vois un gros sticker,
ouais, avec, gros sticker avec 50 noms,
je flippe en me disant, ok, d'accord, mm-hmm. ça va être encore un grand fourre-tout. Donc je suis pas, je suis assez méfiant là-dessus. Donc je crois que simplement il y a plusieurs façons d'appréhender les choses, c'est-à-dire que moi, tu vois, il y a un truc que je fais de façon, enfin, c'est un imposé pour moi. J'ai jamais proposé deux titres à un artiste. C'est-à-dire que tu vois, je connais plein de producteurs qui vont dire, tiens, voilà, j'ai fait une quinzaine de titres, ils envoient, tu vois, une dizaine de titres, et puis bah le chanteur ou le rappeur, etc., va piocher là-dedans. Tu vas dire, bon, tiens, moi j'ai pris celui-là, et au final, bah moi, je pense que tu te retrouves avec l'album qu'on a bien voulu te renvoyer. C'est pas ton disque. Donc moi j'essaie, et des fois c'est pas facile parce que des fois tu vas parler à un artiste pour qui t'as beaucoup d'admiration et qui t'as vraiment envie de travailler, et puis il faut accepter le truc à double sens, c'est-à-dire que simplement tu peux avoir un artiste qui va te répondre, soit qu'il a pas le temps, ça c'est encore une autre histoire, mais qui va te dire moi je le sens pas, et par contre est-ce que tu veux me proposer quelque chose d'autre, et en général bah, moi j'ai eu 2-3 cas comme ça sur cet album où je dis non simplement parce que pas par problème d'ego, tu vois, du mec qui dit merde, non c'est juste non parce que j'avais une idée, je te voyais dans ce rôle là et si je te mets ailleurs je vais perdre le fil, quoi, tu vois. Donc moi j'essaie de me garder ce truc là en me disant voilà, j'ai des idées, tel titre je le vois avec telle voix, bon voilà, on fait, tu vois, comme un réel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu vois, sur un album, t'as eu une première idée d'acteur, et puis ça s'est pas fait, c'est le deuxième. Des fois, ça marche du premier coup, des fois, c'est le deuxième. Et puis, des fois, ça marche tellement bien au troisième que tu te demandes comment t'as pu ne pas y penser en premier, tu vois. Voilà.
Entre les gens avec lesquels, enfin, que tu invites sur tes albums à participation, qui viennent d'univers bien précis, qui peuvent être soul ou hip-hop, toi, d'où tu viens, etc., puis tout ce que tu viens d'évoquer sur les styles musicaux, l'évolution, etc., tu te sens comment aujourd'hui? Est-ce que tu te sens un peu seul sur une île? Est-ce qu'il y a vraiment des artistes avec lesquels tu te sens musicalement proche ou pas?
Non, je trouve qu'il y a une scène aujourd'hui en fait. Alors après, avec des nuances, c'est tant mieux, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas des facsimilés ou des choses. Mais ouais, je pense simplement, tu vois de plus en plus d'ailleurs de projets où, sans forcément se questionner, tu vois des mélanges de genres, des producteurs, ça émane souvent de producteurs, quoi, tout simplement, qui ont des envies et voilà, qui vont inviter un rappeur, une chanteuse, enfin voilà, après avec leur esthétique, leur sensibilité qui fait que c'est peut-être un peu plus soul, un peu plus ceci, un peu plus électro, oui, il commence à y avoir pas mal de gens, quoi, quand même.
Il y en a qui t'impressionnent dans ce domaine-là, ou qui te, sans pour autant enfin être envieux ou quoi que ce soit, ou tu...
Il y a plusieurs catégories, il y a des gens que je respecte, il y a des... après on essaie toujours de te... Les gens qui me, enfin entre guillemets, qui m'impressionnent et qui me, c'est souvent des gens plus de d'autres genres musicaux pour le coup, objectivement. Après si quelqu'un comme Danger Mouse, ouais, vraiment, c'est voilà, ça c'est peut-être le producteur qui pour moi est vraiment impressionnant, parce que je trouve qu'il a une palette ouais. Voilà, c'est
il agit dans des secteurs vraiment très différents, quoi.
Ouais, et ce qui est ce qui est quand même assez rare, c'est d'exceller autant dans tout, quoi. C'est-à-dire que tu dis voilà, quand il se met derrière les manettes sur un album de pop, il le sublime. Quand il prend un album de Beck, il fait son meilleur depuis 10 ans. Quand il se fait l'album avec Daniel Loupi, pour moi c'est le meilleur album de 2011. Quand il se fait un album avec Doom, c'est une tuerie, enfin bon, voilà, le mec est vraiment brillant, quoi.
Toi qui t'es trentenaire,
t'es gentil,
plus pour longtemps, c'est ça. plus pour longtemps. Donc qui a connu, j'allais dire, la musique avant le digital,
avant l'électricité,
c'est ça. Avant le digital, donc avant le piratage, donc avant la compression, le MP3. Quel regard tu portes justement aujourd'hui sur l'industrie de la musique, sur l'aspect, la façon dont les gens l'écoutent, la consomment, etc. Et tout, comment même l'industrie même du disque, du support a évolué. Est-ce qu'en tant qu'acteur de cette petite planète, quel regard tu portes là-dessus?
Bah c'est quelque chose d'assez fascinant au quotidien. Déjà, moi j'ai le sentiment global qu'on est dans une période de mutation, tu vois, mais quand je dis c'est pas là cette année ou l'année dernière, c'est sur 10-15 ans qu'on est dans une espèce d'énorme phase de mutation. J'ai le sentiment que ça apporte plein de choses. Objectivement, souvent, tu vois, par exemple, les gens me disent, mais t'es pas un peu frustré de penser que si t'étais, je sais pas, 10 ans plus tôt, tu vendrais peut-être 4 fois plus d'albums, ce qui est sûrement vrai. Mais en même temps, je leur dis, ouais, mais si j'étais pas arrivé à ce moment précis dans mon histoire, c'est pas les mass médias qui m'auraient aidé à arriver où j'en suis, quoi. Donc, tu vois, tu peux pas prendre et percevoir, etc. Il y a un moment donné où... c'est un global, il faut faire avec les données, avec les plus et les moins. Moi, je trouve que c'est assez fascinant, ça nous apporte plein de choses aussi, tu vois, en termes d'outils, en termes de relais, la façon de construire les choses. Je trouve que ça permet aussi d'avoir des chemins de traverse de plus en plus. Tu vois, on parle de crise du disque, mais tu regardes la rentrée, il n'y a jamais eu autant d'albums qui sortent, quoi. C'est une folie, il y en a partout, quoi. Tout le monde en parle, d'ailleurs, tu vois. Et puis après, moi, je suis producteur aussi, tu vois. Donc, en tant que producteur indé, bah, j'essaie de penser un peu différemment, tu vois. Tu te dis, ça sert à rien de remonter le courant et d'essayer de se battre. Enfin, tu vois, je pense aux dispositifs type Adopi et consorts. Moi, j'ai toujours dit clairement que bah, je crois jamais franchement cru à la répression de toute façon, et qu'après, c'est surtout que ça, c'est peut-être une chance quelque part de aussi de se restructurer et de se questionner sur la façon de faire, c'est-à-dire peut-être penser plus en artisan, tout simplement, tu vois, en se disant. Bah voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la façon de consommer, comme tu le dis. Bah, il y a le digital, mais il y a des choses à côté, il y a aussi des notions un peu de le rapport à l'objet, tu vois. Aujourd'hui, ça ne consiste pas à emboutir une galette plastique vite fait, bien fait, il faut qu'il y ait quelque chose et une proposition derrière. Voilà, c'est une somme de paramètres, donc moi je le vis plutôt en spectateur et en acteur attentif, quoi, mais pas terrorisé par tout ça, non.
Et tes pratiques d'écoute, elles ont évolué? Comment tu consommes, entre guillemets, la musique? Est-ce que tu télécharges, t'achètes, tu vinyle, CD, une musique numérique?
Écoute, ouais, complètement.
Tu as des phases.
Je pense que c'est vraiment toujours moi, j'ai un peu, c'est comme, tu vois, dans le rapport à la composition au studio, moi, je suis assez partisan du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je continue d'utiliser, par exemple, j'ai fait tout mon album avec mon sampler qui a 20 ans, parce qu'il y a une texture et tout, mais pour autant, je peux dire que ça n'a rien à voir avec ma façon de travailler il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'avais des disquettes dedans, un lecteur zip, etc. Et puis bon, quand tu voulais faire une compression, quelque chose, tu pouvais aller te faire des pattes et revenir, parce que de toute façon, ça prenait 2 heures. Donc j'ai pas du tout envie de travailler comme ça. Donc aujourd'hui, je l'utilise comme une machine à grains, pour le coup. Et puis je passe dans une tonne d'outils, tu vois, parce qu'on a on a une force de frappe incroyable. Et bah, c'est pareil pour la consommation de musique, pour le coup. C'est-à-dire que... Je continue d'acheter des vinyles parce que voilà, je suis attaché à l'objet, mais je suis sélectif, tout simplement, tu vois. C'est-à-dire que bah oui, le digital, c'est une façon d'avoir à portée de main énormément de choses, de travailler différemment. C'est aussi dans le rapport à la scène, tu vois. Moi, ça me permet de faire des tonnes de choses, quoi, concrètement, avec des outils comme le Serato. Je pense que de vouloir scinder en disant, tu vois, t'es tout pour ou tout contre, c'est complètement con. Objectivement, non, ça apporte énormément de choses. Et puis bah moi qui suis, tu vois, en tournée, avoir la possibilité d'avoir un disque dur, toute ta discothèque, enfin c'est complètement fou, quoi. Donc on vit une époque incroyable de ce point de vue là
est-ce que quand tu te retrouves dans une petite ville et que tout à coup il y a un magasin disque, est-ce que tu rentres dedans avec plein de disques d'occasion, t'es un peu en transe, t'as toujours la fibre du chasseur de sons, de rareté, etc.
C'est toujours là, ça reste la première question quand on arrive dans une ville, au promoteur, de lui demander est-ce qu'il y a un magasin disque, ouais, bien sûr. Mais c'est encore une fois, c'est pas en opposition à, parce que bon, voilà, il y a un rapport. Bon, puis des moments, moi, je cherche aussi beaucoup de vieilles choses, donc ça, pour le coup, c'est un peu différent. Mais même dans les vieilles choses, tu vois, il y a des choses qui sont rééditées en digital, et c'est une vraie chance, quoi.
Once was a boy who lived in a house with his mother. His room was piled high with crates of vinyl records. The boy liked to sit on the floor with his turntable, his records stacked around him and strewn about. At night, he could pull his blankets up under his chin and look around his moonlit room. One day, there began a great period of rain. When walking with his mother, the boy saw a rainbow in the sky. He asked her what it was. His mother began, "It's what happens when the sun shines through the rain." But she soon paused. She looked down at her boy, and up again at the rainbow, and thought of a different story. She said, "The rainbow is a path. It leads from dark to light, and from light to dark. It leads to your imagination. If you open your mind, you'll find your dusty rainbow from the dark."
ta musique qui est vraiment une musique qui est très proche, qu'on pourrait imaginer très très proche du studio, de la fabrication, etc., du son, de l'artisanat de studio, a fait pour passer à la scène. Tu fais énormément de concerts, ouais. Tu fais beaucoup de live. T'es pas genre juste le musicien de studio enfermé et qui sort jamais et qui au moment où on doit passer sur scène se prend la tête entre les mains en disant ah non c'est pas possible. Comment t'as abordé cette partie de ta musique et de ton art?
Si je me prends la tête en disant mais c'est pas possible à chaque fois, c'est compliqué parce que comme tu le disais, les arrangements, il y a quelque chose d'assez sophistiqué dans l'approche et c'est une question, c'est-à-dire que l'idée c'est pas, il y a pas ce rapport par exemple d'une certaine prod électro très 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 dynamique où tu vas tout va reposer là-dessus, donc avec un Ableton ou des choses comme ça, tu vas vraiment tout de suite avoir quelque chose de live et d'efficace. Moi, il faut que j'arrive à voir comment je peux retranscrire le truc. Je pars avec 4 musiciens. Comment on va se réapproprier les arrangements, comment on va le retravailler, comment moi, en termes d'outillage, je vais essayer de rejouer des choses. C'est assez compliqué, mais c'est un bel enjeu, tu vois. C'est un truc très, très différent parce que justement, j'ai ce rapport très solitaire de studio. Et il y a un moment donné, il y a une confrontation et c'est pas du tout le même... C'est pas du tout le même rapport parce que je pense que le studio, c'est une espèce de pseudo-instantané de l'excellence. C'est-à-dire que ça n'est jamais parfait, mais c'est ton top à un moment donné où tu le poses le crayon et tu dis stop, voilà. Donc t'es censé vraiment avoir mis tout ce que tu pouvais. Le live, c'est un peu tous les soirs, y a des soirs tu sors de scène et tu te dis putain, ce soir c'était pas terrible, enfin voilà, ça, l'arrangement il était pas en place, là j'ai couillé sur ce truc et tout. Mais c'est un autre challenge et puis c'est un rapport direct aussi, donc c'est un retour. Je pense que ça nourrit des choses inconsciemment. Moi j'ai pas le sentiment en revenant de tourner de savoir exactement ce que j'y ai appris, ce que ça va me donner, mais de toute évidence j'apprends beaucoup, quoi.
Alors Dusty Rainbow From The Dark est encore tout frais, est-ce que tu as déjà à l'esprit plein d'envie pour la suite, ou tu vas plutôt step by step comme on dit en Atlantique?
C'est toujours difficile, voilà, là c'est très très, je te dis, j'ai la tête dans la préparation du live et tout, donc j'ai un peu du mal à voir plus loin, mais j'ai des envies, en tout cas ça fait très longtemps, tu vois, j'ai eu pas mal de propositions en tout cas pour faire des musiques de films. Et là j'ai un peu le sentiment qu'après la tournée, ouais, je vais peut-être prendre un peu de temps là-dessus. C'est toujours des histoires de moments, d'instantanés, de rencontres, tu vois, de propositions. S'il y a quelque chose qui coïncide bien, je pense que j'essaierai de plancher là-dessus, ouais.
En termes d'écoute, le glouton de musique que tu es a des phases, comment ça se passe?
Ouais.
C'est quoi la phase du moment?
La phase du moment.
La phase de ces derniers mois.
Alors, ouais, c'est plutôt de ces derniers mois, parce que là, ces derniers temps, c'est plutôt la tête dans le studio à bosser sur le live. Mmh. Mais il y a des phases, tu vois, genre. Et c'est marrant parce que pour le coup, tu te rends compte qu'il faut du temps, parce que tu vois, des fois, tu penses que ça va ressurgir dans ta musique et c'est pas forcément instantané. Moi, je vois qu'il y a une grosse latence, tu vois. Là, pour le coup, pour l'anecdote, tu vois, je trouve que c'est un album qui est pas mal empreint de références de rock et pop psyché. Il y a beaucoup de guitares, beaucoup de sons comme ça. Et j'ai eu une phase comme ça il y a 2-3 ans, tu vois. Et même plus que ça, je te dis des conneries, parce que c'était avant In The Mood, et je m'étais dit...
Ça a ressurgi 3 ans
plus tard. Ouais, voilà. Et ça n'a pas été complètement commandité, prémédité. C'est venu comme ça. Et voilà, il y a des phases. J'ai eu une phase Bossa Nova qui n'est pas encore revenue à la surface.
Mais où
d'un
ans.
Coup, ouais, parce que je pense que j'avais des grosses lacunes, tu vois. Je ne connaissais pas bien toute cette culture. Donc j'ai fouillé, trouvé pas mal de vinyles. Voilà, c'est un peu des moments comme ça... Où je me balade un petit peu dans des répertoires.
Bien, donc je rappelle que tu seras au Trianon le 21 et le 22 novembre, mais c'est déjà complet, si j'ai cru comprendre.
C'est ça.
Mais les Parisiens pourront toujours aller à l'Olympia. Le 20 mars, on devra attendre l'année prochaine.
Ça vient vite.
Et donc l'album s'appelle Dusty Rainbow From The Dark. Merci Wax Taylor.
Merci à toi.
Jet plane traveling fast, looking out the looking glass. What's the clouds go past. Ask me where I'm going, I'll tell you where I've been. Ask me who I am and I'll say that I'm yours. Place I could call home. Yesterday is in my shadow, and today is a new battle. Tomorrow's the great unknown. Got my tickets, bags are packed. Full steam ahead, no turning back. Smoke is white, the coal is black. The engine's pushing off this track. Ship is setting sail again. It's just me against the wind. Where loneliness is my old friend, who comes to visit now and then. A time will come for all of us to test that element of trust and climb aboard that final bus that turns our ashes into dust. Ask me where I'm going, I'll tell you where I've been. Ask me who I am, I'll say that I'm your friend. Ask me what I'm doing, I'll tell you I don't know. Just traveling through life, and now it's time to go.
Cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.